Bouchebem, enfin de parler boucher, quoi. Voilà.
Comment ? Du coup, je reprends. Vous êtes toujours à l'écoute d'un petit dénoir. L'émission des militants et militantes de la coordination des groupes anarchistes. Et donc, nous allons passer aux luttes sociales. Donc, on va peut-être changer par rapport à l'habitude, vu que j'ai bouffé la moitié de l'émission. On va faire peut-être les luttes sociales d'une traite pour être sûr de pouvoir toutes les faire. Et puis, on verra le temps qui nous reste derrière pour finir l'émission.
Voilà. Donc, oh, bah, il nous reste quand même pas mal de temps. On n'est qu'à la moitié de l'émission. Donc, ces luttes sociales, bah oui, il faut aller les chercher en ce moment parce que le 31, évidemment, a accaparé un peu tous les sites sur Internet, partout dans les journaux. Enfin bref, on parlait que du 31 mars, cette grosse manif. Donc, j'en ai récupéré quand même quelques-unes de ces grèves hein, qui sont là hein, et qu'on le mérite d'être là aussi. Et c'est ainsi à Perpignan, c'était le 21 mars, il y a eu une grève de convoyeurs de fonds de chez cette grosse boîte Loomis qui s'est fait remarquer il y a quelques années là. C'est 20 salariés qui représentent quand même 98% hein, des grévistes, de une grève qui a duré de 4 heures le matin à 14 heures. Donc ils dénoncent le management, demande plus d'humanité et de considération, des revendications évidemment que les capitalistes, les patrons, pour eux ce sont des mots qui n'ont jamais eu dans leur dictionnaire. Et puis je pourrais ajouter aussi se faire trouver la peau pour les capitaux, voilà quoi, c'est leur choix, mais bon, on peut pas non plus cracher sur tout le monde. Il fut un temps où les convoyeurs de fonds n'étaient pas des gens très respectables. Aujourd'hui, ils sont des salariés comme tout à chacun, quoi. Voilà, mais ils transportent le capital. Et les temps sont durs. À Nevers, c'est une suite et continuité de la grève chez Look Fixation. Une semaine à ce jour pour défendre les acquis sociaux. Volé, 110 salariés qui grèvent, c'est la production qui stagne, et une production qui stagne, c'est l'arme fatale du prolétaire, contre les patrons, bien sûr. Carcassonne maintenant, Itou aussi, c'est une suite et une continuité, donc de la grève en cuisine, c'est la cuisine centrale, 12 agents sur 17, dès 7h le matin, les conditions de travail, sécurité et organisation des horaires, voilà tout ce qu'on retrouve aujourd'hui dans ces luttes. Les 12 grévistes sont des titulaires qui ont suivi l'appel syndical, puisque la mairie en bonne patronne, parce qu'eux aussi sont des patrons, hein, et des patronnes, ne daignent pas répondre aux sollicitations de discussion des travailleurs et travailleuses. Blagnac, c'est en Haute-Garonne, avec la ZAC Andromède, enfin sur la ZAC Andromède, c'est Téléperformance, le leader mondial des centres d'appel. Il y a une grève le 25 mars, alors c'est hallucinant ici parce qu'il y a 140 salariés qui bossent sur un nouveau logiciel qui les oblige à demander une autorisation écrite par mail, pour prendre une pause, qu'elle soit une pause toilette ou toute autre pause, sandwich, cigarette, enfin tout ce que vous voulez. Et l'autorisation doit être acceptée, accordée par messagerie interne par le chef. Le débrayage de ce 25 mars s'est fait de 14h à 17h contre ce nouveau logiciel jugé dégradant, humiliant, infantilisant, qui touche 140 personnes sur 400 et 400 personnes qui étaient prêtes à se mobiliser pour cette cause. À Marseille, dans le 8e arrondissement, c'est une grève de femmes de chambre. Remarque que dans l'info, il n'est pas employé le terme, il n'est pas employé le terme de technicienne de surface. C'est différent, évidemment, femme de chambre, c'est pas pareil. Obligation donc de respecter l'échelle sociale. Grève, disais-je, donc une semaine au 28 mars avec un conflit à l'hôtel Villa Massalia. Les dames de chambre sont employées par une société sous-traitante de cet établissement Chicos. Elles exigent le paiement des heures complémentaires. Là aussi, on n'emploie pas les heures supplémentaires, mais enfin bon, supplémentaires. Elles exigent également de meilleures conditions de travail. 15 personnes étaient en grève. Le conflit a démarré après que la direction ait nié les revendications. C'est un tantinet dans l'impasse à cette date, bien que la CNT apporte son chaleureux soutien et concours syndical. À Paname maintenant, c'est une reprise donc du conflit à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, la PHP. Alors c'était prévu, bien sûr, un projet de réorganisation du temps de travail totalement mité, une direction qui, pendant tout ce temps de silence, doit, après avoir revu sa copie, présenter de nouveaux ajustements, là aussi, sur sa réforme. Eh bien, le CHSCT convoque et convié y a jeté un coup d'œil ou deux d'ailleurs, je pense que ce serait mieux d'y mettre les deux yeux. Une intersyndicale de poids et des salariés sur le terrain, prêts à sortir des tranchées, baïonnettes au canon. Je m'excuse de cette atroce image, mais enfin, comme on est en plein dans le centenaire de la guerre des 14-18, je me suis dit qu'elle serait bienvenue. C'est la bagarre dans 39 établissements avec cette intersyndicale USAP-CGT, CFE-CGC, la CFTC et l'UNSA. Évidemment, la CFDT est complètement absente. Il y avait un rassemblement qui a été prévu donc le 29 mars, donc hier, au siège. Alors, je sais pas trop ce que ça a donné. J'ai vu quelques images. Il y avait quand même pas mal de monde. Donc, contre la réforme de Martin Hirsch et de Marisol Touraine, qui vise à individualiser les horaires des travailleurs et travailleuses de la santé et n'arrangera aucunement la situation des patients et patientes, foi de professionnels de la santé. Alors, qui sont quand même une grosse poignée, quand même. 75 000 agents et agentes, dans ces établissements donc de la PHP, qui sont 75 000 à pâtir de cette réforme de technocrates de l'économie de moyens à tout craint. Déjà, les ajustements horaires, temps de travail effectif, pause repas, considérés dans le temps de travail comme une compensation au dépassement horaire, sont critiqués et présentés sans amélioration sur la précédente réforme, donc cette première mouture. Voilà pour ce qui est des quelques luttes l'hexagone, voilà. Tout bonnement, ce que j'ai pu récupérer. Maintenant, je vais faire une petite page sur les luttes pas si étrangères, parce qu'il faut aller voir aussi ailleurs un petit peu ce qui s'y passe, et c'est étrangement identique. Par exemple, à Kaboul, en Afghanistan, avec une manif au caractère plutôt rare à notre époque, puisque des hommes dans la rue, en burqa, c'était début mars, qui défilent pour le droit des femmes et condamner le vêtement imposé aux femmes depuis 1990 par les religieux talibans. Il y a eu le même fait aussi en Turquie, je crois, il y a quelques mois, avec ce port de la jupe.
Exact.
Voilà, dans le même caractère, on va dire. Donc, à Johannesburg, maintenant en Afrique du Sud, avec une manifestation des travailleurs de l'agglomération Buffalo City, c'était fin février, pour avoir mieux, évidemment, un petit mieux sur les salaires. Pour appuyer leurs revendications, il y a eu mise en place de grèves sauvages, notamment dans la voirie, pour des primes non payées. En Algérie, maintenant, sont les conducteurs de train qui étaient mécontents et qui grèvent, pour le dire. Pas de revendications sur les salaires, mais exiger une sécurité accrue dans leur travail suite au décès d'un aide-conducteur. Cette grève s'adressait à la direction de la SNCF. Koblenz, c'est en Allemagne, bien sûr, une grève chez Amazon. Ça n'étonne plus personne, maintenant, les grèves chez Amazon. C'est tellement pourri. Amené par le syndicat Verdi, ce conflit porte une nouvelle fois sur les salaires. Et ça dure. En Bavière, maintenant, c'est la grosse Siemens, la grosse société Siemens qui solde son personnel. En langage clair, c'est un plan de suppression d'emplois qui amorcera une délocalisation. 2000 emplois sont menacés, donc ça bouge côté ouvrier. À Bad, Neustadt et Nuremberg, on a débrayé spontanément 1500 salariés et manifesté aussi leur colère. À Cotonou, maintenant, c'est au Bénin, avec les syndicats de l'éducation qui exigent du gouvernement l'application de la mesure des 25% comme indexation du salaire indiciaire. Le rappel d'un paiement de 80 000 francs CFA à tous et à tous les ayants droit, où le travail ne reprendra pas, puisque ce sont des activités donc pédagogiques. Au moins, dit comme ça, c'est direct. À Liège maintenant, avec la Poste, enfin plutôt B-Poste, société anonyme de droit public. Anciennement, La Poste, d'ailleurs, ça s'appelait La Poste dans le temps, grève des personnels des bureaux de poste contre un projet de réorganisation des services qui n'arrange que les économies faites sur le dos des salariés. Hein. On a la même chose ici, bien entendu. 20 services disparaîtront pour cependant un même travail selon la CSC Transcom, syndicat impliqué aussi dans les chemins de fer, dans la culture, le maritime, etc., etc. C'est un peu notre CFTC belge hein, pour ses opinions cultuelles. Alors restons sur Liège encore avec cette fois les techniciennes de surface, hein, c'est dit, qui exercent au palais de justice et au tribunal de police de la ville. Elles exigent du personnel supplémentaire et en urgence ou des heures supplémentaires de nettoyage pour être payées un peu mieux quand même. Un front commun syndical est arrivé à la rescousse, c'est le CSC, donc le service public, le CGSP et le SLFP. Voilà, vous savez tout. Au Brésil, avec des personnels d'aéroports en grève, 12 de ces aéroports étaient donc sans activité aucune. C'était en février. Hein. Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est une revalorisation des salaires, tout bonnement. La grève a eu une durée de 2 heures. Ils exigent une augmentation de 11% pour couvrir l'inflation qui est au Brésil à 10,5%. En restant au Brésil, on va sur Sao Paulo avec les rues qui étaient occupées. Alors là, c'était en janvier, par des manifestants et des manifestantes pour protester contre la hausse du prix du billet de transport. Alors même motif qu'en 2013, il y a eu un affrontement avec la police. La manif était à l'initiative d'un collectif qui milite pour les transports publics gratuit. Voilà.
Donc voilà.
Ma petite participation à cette émission.
Et donc du coup, avant de passer à une deuxième petite pause musicale, on va faire un petit tour à Calais avec des personnes en grève de la faim. Donc à Calais qui lutte contre l'État, comme beaucoup d'entre nous. Ils luttent contre le même fascisme, comme beaucoup d'entre nous. Ils méritent le soutien de nous tous et toutes. Alors depuis le 2 mars, des activistes iraniens font la grève de la faim à Calais. Des négociations avec la préfecture ont eu lieu cette semaine et ont été un échec, mais elles continuent. L'offre de la préfecture n'était rien d'autre qu'une insulte. Toutes les demandes des grévistes de la faim ont été ignorées et à la place, ils ont eu droit à un sermon de la propagande d'État sur les fameux CAO, hein, centres d'accueil et d'orientation. Ils ont refusé de bénéficier de la procédure d'asile accélérée en France, d'abord parce que ça ne répond pas à leurs demandes et surtout parce que cette protestation est pour toutes les personnes qui sont forcées de vivre dans le ghetto calaisien, pour toutes celles et ceux qui doivent faire face à la même répression policière et à la violence fasciste. Ils ne demandent donc pas un traitement spécial pour eux-mêmes, mais un changement pour tous et toutes. Donc voilà, on vous conseille donc la suite de l'article. Je crois que j'ai trouvé sur la Horde, il y a une interview du coup de ces personnes de grévistes de la faim. C'était aussi que c'était cousu les lèvres, je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de l'évacuation de ce que les médias appellent la jungle. Donc voilà, on vous invite à lire la suite. Et donc on va passer une deuxième petite pause musicale.
Alors, je te laisse.
Oui, donc le nom du groupe, c'est 10 rue de la Madeleine.
10 rue de la Madeleine. Anime.
Ouais, enfin, qui n'existe plus, mais ce groupe, mais voilà.
C'est pas pratique de penser librement et de voir braver à tout bout de temps le rouge de nos utopies, de ça pour bien vivre ou correctement ce qu'il faut suivre. Accélérer le pas, la monnaie au service de la langue des mains. Plus besoin de se taire pour qu'on ne vous écoute pas. Les multinationales auront le genre humain. Le décor, déguiser notre monde avec des mots sucrés, tout ça pour plaire au plus grand nombre. Ça me fait marrer comme tout est maniéré. On gueule un peu mais on ne veut surtout pas se fâcher. Le cul entre deux chaises, c'est la sainte loi du centre. Ni l'un ni
surtout pas ensemble.
Idées noires sur le 102.2 de Radio Canu, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Il nous reste 10 minutes pour revoir un peu toute l'actualité. Ça va être
compliqué. Ouais. donc la dernière partie de l'émission, avec un petit retour, un article trouvé toujours sur le net, avec un retour sur la manifestation des hooligans d'extrême droite ce 27 mars en Belgique. Vous en avez sûrement entendu parler. Donc dimanche, environ 300 à 400 hooligans, dont une grande partie d'extrême droite, ont pu défiler dans les rues de Bruxelles accompagnés par les flics. À leur passage, ils en ont profité pour scander des slogans tels que « On est chez nous », tout en agressant verbalement et physiquement les personnes qui ne leur revenaient pas. Ces hooligans qui tournent autour de Casuals United Belgium, ils souhaiteraient sans doute reproduire ce que Ogessa en Allemagne avait réalisé. Ogessa pour Hooligan gegen Salafisten ou Hooligan contre les salafistes qui avaient manifesté à Cologne et à Hanovre lors de manifestations islamophobes dans la même lignée que Pediga version hooligan. Un rassemblement antifasciste contre l'islamophobie et l'extrême droite est organisé le même jour que la manif annoncée par Génération Identitaire à Molenbeek. Donc sur ce site-là, il publiait donc l'appel au rassemblement qui a été lu sur le Facebook des Jeunesses Libertaires Belgique. Ce samedi 2 avril, un groupuscule raciste et fasciste, hein, Génération Identitaire qu'on connaît malheureusement bien, a lancé un appel européen en vue d'une manifestation islamophobe à Molenbeek. Si le bourgmestre, donc le maire là-bas, dit refuser d'autoriser ce rassemblement, il est clair que l'extrême droite compte faire de Bruxelles et en particulier Molenbeek le symbole de leur obsession islamophobe. Et comme dans le passé, le reste de l'échiquier politique suivra cette tendance. Pour preuve, ce samedi 27 mars, des hooligans encadrés par un noyau de militants d'extrême droite et escortés par la police ont envahi la place de la Bourse pendant les commémorations des victimes. Sur leur passage, ils ont agressé plusieurs personnes et crié des slogans racistes et nationalistes. La victoire idéologique totale de l'extrême droite s'est concrétisée dans les urnes et maintenant dans la rue. Alors que les terroristes frappent sans distinction les civils ici ou ailleurs, nous, les quelques militants et militantes musulmans musulmanes de nos organisations, considérant que les nôtres doivent assumer une double peine, celle de l'islamophobie décomplexée, complexée, violente, sexiste et institutionnelle. Nos mères, nos sœurs, nous sommes agressés verbalement et physiquement, discriminés dans toutes les sphères de nos vies. Les polémiques stériles et les discours de haine distillent la peur pour camoufler les échecs du gouvernement en matière de justice sociale, d'égalité, de politique étrangère, et cela à des fins toujours électorales. Nous refusons que la mémoire de victimes devienne le théâtre des enjeux politiciens au détriment des habitantes et habitants des quartiers et d'ailleurs. Il n'y a pas de place pour l'islamophobie dans nos rues. Alors nous disons, nous ne laissons ne nous laissons pas entraîner, ne nous laissons pas faire. Rassemblons-nous à Molenbeek pour leur montrer notre Bruxelles, notre Molenbeek, solidaire, pluriel et mixte. Nous, militantes et militants ou non, musulmans ou musulmanes ou non, habitantes ou habitants de Molenbeek ou non, initions un rassemblement pour avancer ensemble vers un monde juste et égalitaire. Pas de place pour le racisme d'État, l'islamophobie et toutes les oppressions dans nos quartiers. Ce rassemblement sera l'occasion pour les femmes et les hommes à qui on refuse bien trop souvent la parole de la prendre. Donc ça, rendez-vous, on le donne quand même, hein, le 2 avril, 13h, place de la Bourse, donc à Bruxelles, pour répondre donc à ce rassemblement lancé par Génération Identitaire. Bon, une petite nouvelle, enfin, du coup, dans les copains, on parlait tout à l'heure à Canu Info, mais je résiste pas de le redire si vous n'étiez pas à l'écoute de Radio Canu à ce moment-là. Avec ce Stéphane Schax, je pense qu'on dit comme ça, c'est un politicien du NPD, donc National Demokratische Partei Deutschlands, donc c'est le parti national démocrate allemand, donc extrême droite, voire néo-nazi, hein. Et ben, ce brave monsieur a eu, il y a quelques jours, un accident grave sur une nationale en S, région du centre de l'Allemagne, d'où il est originaire, et où il s'est présenté aux élections municipales l'année dernière, recueillant autour de 10%. Et ben, sa voiture est sortie de la route et est venue s'encastrer dans un arbre. Eh ben, ironie du sort, ce sont deux réfugiés syriens qui l'ont sorti inconscient du véhicule et lui ont prodigué les premiers soins avant d'appeler les secours qu'ils ont attendus avec lui. Encore à l'hôpital, donc ce fameux politicien néo-nazi n'a pas fait de commentaires, mais le dirigeant du NPD de S, donc la région là où il y a eu l'accident, Jean-Christophe Fiedler, a d'ores et déjà loué quand même les deux réfugiés pour leur, entre guillemets, humanité. Dire que quelques jours plus tôt, ce militant et ses amis néo-nazis, dont Mélanie Dittmer de Pédiga Cologne, que riposte laïque idolâtre, scandait dans une manifestation que les réfugiés accueillis en Allemagne étaient des envahisseurs, des parasites sociaux ou encore des primates sans foi ni loi. Ce fait divers apparemment anodin a déchaîné l'hilarité sur les réseaux sociaux allemands. Face à cette ironie du sort, certains se demandent si ce député va changer d'opinion. Alors oui, son accident n'aura pas été vain, affirme une lectrice de Frankfurter Rundschau. Continuera-t-il à poster sur Facebook que l'intégration est un génocide, dire qu'il aurait pu y rester? Un député des Verts commente sur Twitter, voilà le genre d'histoire dont on dit que si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Et la palme du meilleur commentaire revient aux camarades du Blockupy qui ont écrit ceci sur Twitter. L'Allemagne reçoit une leçon de civilisation, des réfugiés syriens prodiguent les premiers secours à un cadre néo-nazi. Donc voilà pour la belle petite histoire.
C'est pas mal.
Oui. Ouais, pas mal du tout. Un autre article trouvé sur le net, écrit du coup par William Blanc et Christophe Naudin, donc qui sont des historiens, qui sont les co-auteurs de Charles Martel et la bataille de Poitiers, de l'histoire au mythe identitaire. On sait que c'était un des événements qui est mis en avant par les identitaires. Et donc du coup là, le titre c'est « Comment Philippe de Villiers récupère le mythe de Jeanne d'Arc ». Le récent rachat d'une bague attribuée à Jeanne d'Arc par Philippe de Villiers constitue un événement révélateur d'une utilisation symbolique de l'histoire, avec un grand H, à des fins mémorielles, politiques et économiques. Il ne s'agit pas de savoir si l'anneau a véritablement appartenu ou pas à Jeanne d'Arc, même si les spécialistes émettent de sérieux doutes quant à son authenticité. Notons simplement que cette découverte a lieu alors que nous avons fêté, enfin pas nous en tout cas, mais certaines personnes, en 2012, le 600e anniversaire de la naissance de cette fameuse Jeanne d'Arc qui devient par conséquent l'objet de véritables enjeux. Politique tout d'abord. Depuis le début du XXe siècle avec l'action française de Charles Maurras, Jeanne d'Arc a été accaparée par l'extrême droite qui en fera sous Vichy une égérie de l'antisémitisme. Aujourd'hui, la nouvelle fièvre johannique doit se comprendre dans la perte d'influence du catholicisme au sein de la société française. Réactiver la figure de la jeune martyre revient à affirmer que la France serait par nature une nation chrétienne. Jeanne d'Arc, tuée par des Anglais, en fait de nombreux sujets du Royaume de France ont participé à sa capture et à son procès, sert aussi à mobiliser les foules d'hier et d'aujourd'hui contre la figure de l'étranger. Pour l'action française, ce fut le juif. En ce début du XXIe siècle, ce sont les migrants, migrantes et les musulmans musulmanes qui viendraient détruire les fameuses racines chrétiennes de la France. On remarque en effet depuis le début des années 2010 une véritable stratégie de reprise en main de la figure de Jeanne d'Arc par la droite extrême. En 2012, Patrick Buisson, ancien rédacteur en chef du journal Minute, convainc Nicolas Sarkozy d'organiser une cérémonie pour l'anniversaire de la naissance de la sainte catholique. En 2014, Philippe de Villiers publie son roman de Jeanne d'Arc, applaudi par Éric Zemmour. En janvier 2016, Jacques Trémollet de Villiers, proche de l'ancien ministre, publie les minutes du procès de Jeanne d'Arc, pourtant disponible gratuitement sur Internet. Quelques semaines après, il découvre la vente aux enchères de l'anneau et persuade le fondateur du Puy du Fou de l'acheter pour l'exposer à la foule le samedi 20 mars, avant de le déposer dans une chapelle. Pas un historien ou encore moins les spécialistes de Jeanne d'Arc ne s'est associé à ce spectacle. Seul un journaliste d'Europe 1, bien connu pour ses prises de position en faveur d'un récit national identitaire, donc ce fameux Franck Ferrand, s'est prêté au jeu en affirmant qu'il fallait aborder le passé avec une part de foi. C'est quand même magnifique dans une radio. La foi et l'émotion contre la réflexion, l'ancienne est bien connue car Philippe de Villiers et ses amis ont également en ligne de mire les historiens et le service public de l'histoire en France. En effet, depuis plusieurs décennies, nombre de professionnels de la recherche historique comme Colette Beaune, Olivier Bouzy, Philippe Contamine, Gerd Groumard ont donné une vision plus complexe de Jeanne d'Arc. Était-elle une patriote ? Pas dans le contexte médiéval où le concept de nation n'en est qu'à ses balbutiements et qu'une partie des sujets du Royaume de France, parisien en tête, se rallissant complexe à l'alliance anglo-bourguignonne. Si Jeanne d'Arc se pour remettre sur le trône Charles VII, c'est qu'elle pense le roi Valois être le seul à mériter ce titre parce que sa famille est élue par Dieu. Oui, on peut y croire. Cela n'empêche pas les plus hauts représentants de l'Église du royaume de la condamner lors de son procès. Si elle a été réhabilitée après sa mort dans un procès qui vient parachever la défaite définitive de la monarchie anglaise dans la guerre de Cent Ans, il faut attendre le XXe siècle pour qu'elle soit béatifiée, puis canonisée quand même, afin de réaffirmer les racines d'une France qui vient de promulguer la séparation de l'Église et de l'État. Voilà, donc voilà un petit peu sur ce truc sur Philippe de Villiers qui est encore ridicule encore une fois, mais ça on le savait. Et puis on fera les autres choses plus tard, la semaine prochaine. J'avais un petit article, on en parlera sûrement plus tard, en Espagne où la gauche radicale Podemos et il me semble la CGT aussi, une des CGT espagnoles et intellectuels locaux qui suivent les traces de Dieudonné en soutenant un journal antisémite. On fera aussi un petit point sur une enquête menée par notamment Mediapart avec les preuves de la sauvagerie des proches du Front National. On a l'habitude de vous raconter un peu les violences de l'extrême droite sur des militants militantes, sur des réfugiés, des migrants et des migrantes. Et ben là, ils arrivent à se taper sur la gueule aussi entre eux et pas mollement. Donc on en parlera tout à l'heure parce que ça reste aussi intéressant sur leur stratégie.
Mercredi.
Hein?
Pas tout à l'heure.
La semaine prochaine, j'ai dit ouais, tout à l'heure. Enfin, je reste, ça, je reprends, t'en après, on verra. Et donc, du coup, pour finir, on vous donne rendez-vous demain dans la rue. Donc, ça se passe à partir de 13h30, départ manufacture des tapas en direction de la place Bellecour. Donc, manifestation pour le retrait pur et simple de la loi travail. Ça se poursuivra dans la soirée avec des appels à occupation de place. Et ça se poursuivra sûrement aussi dans la rue dans les jours qui viennent avec, on espère, des grèves reconductibles, des blocages économiques, etc., etc., pour enfin faire céder le gouvernement. Et on vous invite à nous rejoindre dans notre cortège demain à la manifestation.
Voilà. Donc à demain. Et on va laisser la place à la lumière du frigo. Et on vous dit donc à la semaine prochaine, évidemment. Et pas à tout à l'heure. Comme, voilà. Salut!